Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, dans le cadre de la première grande fête du livre de jeunesse, baptisée Lire en short, vous avez remarqué que personne n'est en short, ni dans le public, ni Philippe Arnaud qui nous a rejoints pour l'occasion, ni moi. Mais le cœur y est, donc c'est une belle fête que soutient le Centre National des Lettres et le ministère de la Culture pour promouvoir, pendant cette période où normalement les jeunes sont plus disponibles, la littérature jeunesse. Et si Philippe est avec nous aujourd'hui, c'est dans ce cadre-là. Mais dans la salle, ce sont des adultes qui sont là et ils ont bien fait de se déplacer parce qu'en fait, on le disait tout à l'heure, c'est une œuvre qui n'est pas réservée qu'à la jeunesse, loin de là. C'est une œuvre où il est question de jeunesse, il est question de vie, il est question d'énergie, il est question de souffrance aussi, de musique beaucoup, et d'espoir, je crois.
J'espère, d'ailleurs.
Et des livres qui sont à mettre entre toutes les mains à partir de, qu'est-ce que vous diriez, 13, 14 ?
14.
Oui. Voilà, pour des raisons de maturité, parce que c'est vrai que les thèmes abordés sont plutôt graves, comme ça, sur le papier, mais c'est la vie qui domine, on va le voir. Donc, Philippe, qui êtes-vous ? Vous êtes prof depuis un an sur la région bordelaise.
Oui.
Et donc, écrivain depuis 2012,
12.
C'est ça ?
De romans, oui.
Oui. Voilà, parce que vous aviez une autre vie avant. Mais on peut commencer par là, pourquoi pas.
Oui, j'ai une vie, si on veut, de chroniqueur, d'albums de rock dans des fanzines divers depuis 25 ans. Enfin, pendant 20 ans, parce que là, maintenant, j'ai un peu arrêté. Et donc, effectivement, le premier roman, je l'ai écrit en 2011, après l'avoir eu dans la tête pendant 20 ans.
Donc, ce premier roman, c'est celui-ci. La peau d'un autre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire et d'où vient-elle en fait ?
Alors l'origine de l'histoire, c'est la prise d'otage de la maternelle de Neuilly au début des années 90, si ma mémoire est bonne. Sauf que c'est vraiment la situation qui m'a interrogée, cet homme qui rentre dans une école maternelle, qui prend une classe en otage, dont on ne sait rien, qui est abattu, je crois, par le GIGN. Et ce qui m'avait interrogé aussi, c'était la réaction médiatique pendant et après cette prise d'otage. Mais je n'ai pas du tout cherché à me renseigner dessus quand j'ai écrit le roman. En fait, j'ai imaginé l'histoire d'un albinos africain et c'est la situation de départ du livre, cette prise d'otage dans une classe de maternelle. Et ensuite, j'ai imaginé l'histoire de ce garçon-là qui a 20 ans.
Donc on le découvre au début du roman, au moment où il va rentrer dans la salle de classe et avec autour de la ceinture, autour de son ventre, une ceinture d'explosifs qu'il ne montrera pas aux enfants, mais juste à la maîtresse. Et il est plaqué au mur. On a l'impression qu'il ne sait plus très bien pourquoi il est là, ou est-ce qu'il le sait encore, ou il est un peu perdu au début quand même, non ?
Il est déterminé au début, il sait pourquoi il est là, mais il y a, enfin, il sait aussi pourquoi il vient là, et donc il y a cette détermination qu'on découvrira au fur et à mesure du roman, tout ce qui l'a amené à cette situation-là. Il n'y a pas de peur, mais il y a un petit peu une tension, oui, sûrement. Une tension devant ce qui doit arriver, devant ce qu'il veut faire et ce qui va se passer.
C'est quelqu'un qui va utiliser la violence et on craint qu'il en arrive à la commettre, à passer à l'acte. Et pourtant, c'est plutôt un moyen pour lui.
Oui, alors c'est quelqu'un en fait qui est le contraire de quelqu'un de violent. Voilà, c'est quelqu'un qui a subi la violence toute sa vie, mais c'est quelqu'un qui est totalement dépourvu de violence. Et ça, en fait, c'est une des choses qui m'intéressait dans le roman, c'est que petit à petit, on est au départ très peur de cet homme qui rentre dans cette classe lourdement armé avec une ceinture d'explosifs, et puis que petit à petit, on se rende compte que c'est un homme qui ne ferait pas de mal à une mouche.
Et oui, c'est le monstre auquel on va s'attacher, en fait. Donc comment vous êtes parti d'un plan, on a une structure qui est quand même
Pas du tout.
Mais ça on
m'a...
Très fort.
Oui, Thibault, mon éditeur, m'a dit tout de suite, c'est très structuré, et j'ai éclaté de rire. Je lui ai dit, je l'ai écrit.
Au fil de la plume, un peu.
Au sans... fil de la plume.
En se laissant guider, oui. Du coup, par oui. les personnages.
Par les personnages, parce que le deuxième livre, par exemple, qui lui est consacré uniquement à lui, Pigment, puisqu'au début, on a un va-et-vient entre ce qui se passe dans la tête de l'institutrice et ce qui se passe dans sa tête à lui. Et puis, il y a un moment, tout simplement, où je me suis dit, en fait, j'en ai beaucoup à dire sur lui. Et donc il faut que j'ai un moment pour raconter son adolescence, et ça a été le livre 2. Et puis le livre 3, on revient dans la classe où il y a Manon qui intervient, et ça s'est vraiment écrit au fil de la plume et des idées qui me venaient, et je ne l'ai absolument pas construit, ce roman.
Bien.
Consciemment.
Ça ne se voit pas, on peut le dire. Donc au début, effectivement, c'est une alternance entre lui et Anna, l'institutrice. On est dans la tête d'Anna qui maîtrise ses élèves, qui fait front, et aussi qui, elle, en parallèle de lui, dont on va connaître non pas le nom, mais le surnom, Pig, puis Pigment, le surnom qu'on lui donnera en France au collège. Anna va, elle aussi, avoir ses pensées propres qui l'envahissent, qui la ramènent, elle aussi, à son enfance. L'enfance, c'est un thème très très fort dans vos romans. On y revient sans cesse, tout part de là.
Oui, c'est vrai. C'est pas conscient, mais c'est vrai. Oui, oui, oui.
C'est pas conscient. Je suis toujours contente quand je pointe du doigt.
Oui, parce que là, en fait, c'est vous qui m'y faites penser. Oui, oui, c'est vrai. Et oui, alors c'est pas du tout la même enfance dans les deux romans, puisque dans Indomptable, l'enfance, elle est plutôt joyeuse. Elle est plutôt heureuse, mais c'est vrai que oui, c'est elle est fondamentale, c'est vrai. Oui, oui. Oui.
Donc pour revenir à l'enfance de ce preneur d'otages, c'est un petit garçon donc qui naît avec cette peau qui n'est pas celle des siens, puisque les siens sont noirs en Afrique, et que lui a une peau blanche tachetée qui lui donne une laideur singulière. Je crois que c'est l'expression que vous employez au début. Et donc il va être stigmatisé dès l'enfance, considéré comme le maudit. Vous êtes inspiré d'une tradition réelle, j'imagine.
Alors malheureusement, oui. Les albinos sont persécutés encore aujourd'hui dans pas mal de coins d'Afrique, à tel point qu'ils se regroupent parfois dans des villages pour faire face, pour être soudés. Il y a une vieille, des vieilles superstitions animistes qui veulent qu'ils soient en rapport avec la magie, avec le mal, et ça reste vivace dans certains coins d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, probablement pas aujourd'hui d'une manière générale. J'ai en Afrique croisé des albinos qui vivaient très normalement au Cameroun, mais cette persécution existe, oui.
Donc ça va être pour le protéger, pour le sauver, puisque les hommes armés de machettes arrivent et veulent le tuer dans une situation, dans un contexte très, très tendu au sein de la communauté. Ça va être là le non-choix de l'exil, puisque sa famille va le contraindre, le mettre entre les mains des passeurs. Donc là aussi, déjà dans ce roman-là, et on le retrouvera dans Indomptable, le thème de l'exil est présent. Et là, c'est un exil qui n'est pas... Enfin, est-ce qu'il est jamais choisi? Mais là, c'est sauver sa peau cette première fois.
Oui, et sauver ses parents, en fait. Lui, il n'a pas le choix, mais il se dit que c'est le seul moyen pour ses parents de survivre, parce qu'ils vont être... Ils vont être aussi atteints par sa malédiction, et donc c'est ce qui fait qu'il se résout à partir. Alors, c'est effectivement un passeur, c'est quelqu'un... qui connaissent ses parents, qui va l'emmener en avion. Et effectivement, il va se retrouver finalement dans le même système de persécution en France, mais beaucoup plus lié au collège et à l'univers du collège. Puisque c'est un garçon qui fait l'expérience du fait qu'au fond, il n'est ni noir ni blanc.
Oui. On a dans les deux romans... un fort sentiment de nostalgie. Je trouve l'Afrique est présentée comme sous cette espèce de souvenir teinté de nostalgie, parfois, tout au début de La peau d'un autre. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Au moment où il va entrer dans la classe, il a le goût des palétuviers dans la bouche.
Oui, le reflux d'enfance.
Voilà, le reflux d'enfance, donc on y revient. Et dans Indomptable, on a deux gamins qui sont sous le soleil d'Afrique, qui ont une insouciance. C'est une ambiance très très solaire et qui va être cassée par plein d'éléments sur lesquels on va revenir. Donc la montée du fanatisme notamment, et la découverte de l'ambivalence aussi des personnages, de la violence. La nostalgie, c'est quelque chose dont vous avez conscience aussi, ou ça sourd comme ça, de façon un peu incontrôlée?
Alors là, j'ai un peu tendance à réagir contre la nostalgie, mais oui, je sais que je suis très nostalgique naturellement. Ensuite, peut-être que c'est lié aussi au fait que j'avais envie de parler d'Afrique dans ces deux romans, mais pas de la manière dont on en parle ici en général. C'était aussi une façon de réagir et de dire qu'en Afrique... Il y a du bonheur, il y a de la vie. Alors, dans la peau d'un autre, pas beaucoup. Mais dans Indomptable, oui, on vit, on chante, on rit, on danse aussi, malgré tout. Et que ce n'est pas juste une terre qui sert de terre pour création de futurs immigrés clandestins. C'est pas ça, l'Afrique. Or, il se trouve que l'image qu'on en a, et c'est pas ce qui se passe depuis un an qui va améliorer les choses, c'est une image qui est totalement biaisée et fausse. Donc c'est peut-être pour ça que l'image de l'Afrique, elle est finalement positive dans mes romans, je suppose. C'est lié au passé des personnages et puis aussi à quelque chose qui est conscient chez moi, qui est une volonté.
Et qui remonte peut-être aussi à des souvenirs de jeunesse, parce que vous avez été coopérant, je crois, au Cameroun.
Oui, j'ai vécu 2 ans au Cameroun, ouais. Oui. Pas seulement de jeunesse, parce que ma belle famille est camerounaise. Et donc j'y suis retourné et je suis en contact régulier avec le Cameroun. Donc ça fait partie de ma vie, l'Afrique.
Donc Indomptable, c'est... Et on passera d'un roman à l'autre, tellement je trouve les correspondances nombreuses. Indomptable, c'est un roman qui commence par... presque un secret révélé à un ado qui a 16 ans et à qui son père, pour son anniversaire, lui fait un drôle de cadeau. Il vient lui parler de la façon dont l'histoire d'amour entre sa mère et lui s'est construite. Vous pouvez nous raconter ça un peu?
Le point de départ, oui, ben ça m'amusait, ça m'intéressait d'avoir que ce soit finalement un peu le point de vue donc de Mohamedou. Le fils d'Olivia et Jean-Jules, avec très très vite, c'est une page ou deux pages le début, mais le fait que c'est quelqu'un qui tient pas en place, Mohamedou, et que son père effectivement lui dit, pour que tu te poses, il faut que je te dise d'où tu viens, et on ne le lui avait jamais vraiment dit, à ce garçon. Ça m'intéressait de poser cette question-là de l'identité métisse aussi, voilà, du croisement des cultures, parce que ça fait partie des questions que j'avais envie d'aborder dans Indomptable.
Donc on va croiser les deux récits de vie. D'un côté, on a Jean-Jules, donc le papa de notre adolescent. Et très vite, un petit garçon rencontré dans un manguier. Le manguier, c'est le territoire de l'enfance de Jean-Jules. Il a 5 ans. Il est toujours fourré dans les branches de cet arbre sur la place du village. Et puis un jour, il voit son arbre occupé. Donc c'est une bagarre homérique. Ils manquent se tuer d'ailleurs l'un l'autre en tombant de l'arbre. Et ça va sceller une amitié, à la vie, à la mort, on peut dire, hein, jusqu'au bout du roman. Scellé aussi par un amour inconditionnel pour Al Jarreau. Donc la musique très présente dans le roman, donc ça renvoie à votre passé présent de chroniqueur, ou plus chroniqueur, mais en tout cas d'amoureux de la musique.
Oui, dans ces deux romans-là.
De différentes musiques.
Oui.
Et c'est là une Afrique très, très joyeuse, avec le marché, avec les gens qui s'apostrophent dans la rue. Enfin, c'est un roman complètement jubilatoire et c'est rendu par l'écriture aussi. Comment vous avez rendu cette ambiance-là? C'est venu naturellement ou par des souvenirs?
Alors, l'écriture, je me pose jamais la question de l'écriture. Je suis les personnages et là où ils m'emmènent en fait. Donc l'écriture, elle dépend des personnages. Alors on m'a d'ailleurs dit que l'écriture d'Olivia n'avait rien à voir avec celle de Jean-Gilles Mohamedou. Et ça, j'en suis pas du tout conscient en fait. Je suis les personnages là où ils m'emmènent. Et l'écriture, c'est juste un effort pour rendre avec précision leur état d'âme, leur, ce qu'ils ressentent. C'est ça que je travaille. C'est là-dessus que je reviens. Mais sinon, il n'y a pas de recherche qui soit liée aux mots en tant que tel. Mais en revanche, oui, le tout début d'Indomptable, c'est ce que je disais tout à l'heure. La première page d'Indomptable, c'est une réaction viscérale à la peau d'un autre. C'est-à-dire que j'ai voulu imaginer un personnage qui soit exactement l'antithèse de Pigment, qui soit un personnage actif, dynamique, indomptable, voilà, qui ne se laisse abattre par rien et vu ce qu'il va vivre, il a intérêt, qui soit qui explose d'énergie, de vitalité, de rire. Et c'est vrai que pour moi, c'est associé à l'enfance, ça. Mmh. Oui, oui, oui.
L'enfance, elle va avoir un terme. Donc, le copain de Jean-Jules, c'est le fils de l'imam du village. On est dans une famille qui, aux yeux de Jean-Jules, est la famille parfaite. Il y a des filles, il y a des sœurs donc, de son copain qui sont toutes plus jolies les unes que les autres. Il y a un père qui a une stature, une posture assez impressionnante, mais qui est tout de douceur et de compréhension. Enfin, c'est une belle maison et un beau jardin. C'est le paradis, et ce paradis va être cassé, fracassé par la religion qui tout à coup prend toute la place et change.
Oui, alors il faut ajouter aussi oui, qu'il y a ce qui fascine Jean-Jules, c'est que lui appartient à un milieu qui est pauvre,
oui.
Avec un père qui a de grandes difficultés à avoir du travail, à nourrir sa famille. Et donc c'est d'autant plus fascinant pour lui la rencontre de la famille de Mohamedou et de l'imam. Et cet imam, effectivement, se radicalise et devient, à ce moment-là, alors que c'était un homme tout à fait doux et un bon père, un bon mari, il devient brutal, il devient violent, il devient agressif. Ça fait partie des questions que je me pose sur ces questions de la radicalisation. Comment on devient à un moment donné quelqu'un d'autre simplement parce que on suit une idéologie quelle qu'elle soit dans une forme de jusqu'au boutisme où finalement on a l'impression que l'intelligence disparaît, se ferme, alors que c'est juste une question de degré. Parce que la religion peut aussi être un instrument d'élévation spirituelle. C'est pas un discours dans Indomptable, il n'y a pas de discours anti-religieux, mais en revanche, il y a un discours sur... Alors, c'est beaucoup plus brièvement aussi, il y a quelque chose sur les évangélistes, fondamentalistes. C'est les fondamentalismes... Jean-Jules le sent, enfin, il le formule plus ou moins dans son discours d'enfant... sont destructeurs et finalement ne servent à rien pour lui. C'est pas quelque chose qui l'éduque du tout, ce contact-là. Et du coup, c'est quelque chose qui fait qu'il va devenir une aide pour Mohamedou, alors qu'au départ, c'était plutôt le contraire. C'était Mohamedou l'initiateur à Al-Jarrah, par exemple. Là, ça s'inverse. C'est lui qui va devoir aider Mohamedou, qui est chassé de sa maison par son père. Il va l'aider, il va le prendre en charge et il va l'aider aussi quand il va vivre des épreuves encore plus pénibles.
Sans raconter le roman, c'est toujours difficile, mais c'est un thème quand même important aussi, le rapport aux touristes blancs que va avoir Mohamedou. C'est un rapport contraint. Il est obligé de rapporter de l'argent à son oncle qui l'héberge. Et donc Jean-Jules va découvrir ce qu'il fait auprès des hôtels de luxe fréquentés par les Blancs. C'est des scènes terrifiantes, je trouve, et en même temps très pudiques qu'on peut comprendre, enfin qu'on comprend tout à fait, je pense, quand on est adolescent. Mais il y a à la fois une grande pudeur, une grande violence dans ces scènes-là.
Oui, parce que enfin, c'est une violence que moi j'ai ressentie quand j'ai découvert que ça existait au Cameroun depuis le début des années 2000. C'est-à-dire que les touristes sexuels, à partir du moment où ils ont commencé à être en danger en Asie, se sont rabattus sur l'Afrique pour une partie d'entre eux. Et au Cameroun, il y a des endroits comme Kribi où il y a des lieux où ils sont. Ça existe, c'est pas quelque chose que j'ai inventé. Et ça m'a, alors pour le coup, ça m'a vraiment bouleversé compte tenu de l'affection que j'ai pour le Cameroun et pour les gens qui y vivent, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Et j'avais vu un reportage, d'ailleurs, c'était Envoyé spécial, je crois, qui montrait, qui filmait ça, qui filmait des pédophiles en chasse à Kribi ou à Douala, je sais plus. Et c'est des images qui m'ont hanté vraiment et qui sont revenues quand j'ai écrit le roman. C'est vrai que pour moi, c'est un point limite comme romancier. Je peux très facilement me mettre dans la peau d'un assassin. Je pourrais, il n'y a pas de problème. En revanche, un pédophile, alors là, c'est impossible. C'est, pour moi, il y a une espèce de point limite
Oui, il y a une
d'inconcevable.
frontière,
Ah oui,
devant
quelque chose
l'imagination.
d'inconcevable, oui.
Donc, vous l'avez compris, il y a des thèmes durs, il y a la maltraitance aussi, parce qu'il y a beaucoup de violence dans les familles de ces gamins, finalement. Il y a Odette aussi, qui est la sœur
Oui.
de Jean-Jules, qui elle aussi est obligée de se prostituer. Et tout le monde ferme un peu les yeux, enfin, on sait ce qu'elle fait, mais on n'en parle pas.
Alors, elle l'assume, elle. C'est plus qu'elle
Oui,
elle le
elle est
choisit.
plus
Elle fait
âgée,
ce
oui.
choix-là, voilà, pour rapporter de l'argent. La violence, elle est dans la famille de Jean-Jules, elle est subie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'amour dans cette famille, entre les gens de la famille. Il y a beaucoup oui, vraiment beaucoup d'amour. Mais il y a un père qui n'arrive pas à ben, simplement avoir du travail. Et donc on fait comme on peut. C'est la débrouille, c'est le système D. Et effectivement, avec des choix qui sont des choix voilà, qui sont contraints, on va dire. Mais dans la famille de Jean-Jules, il y a toujours une énergie, il y a toujours une volonté d'aller de l'avant, malgré tout, chez tous les membres de cette famille-là.
Un des points communs aussi dans les deux romans, c'est... Il y en a vraiment beaucoup. Enfin, la liste s'est allongée au fur et à mesure que je relisais les deux textes. Il y a l'amitié, bien sûr. Parce que dans la peau d'un autre, il va y avoir une fille qui va être très importante dans la vie de Pig au collège, c'est Léa, qui va être celle qui écoute, qui voilà, une présence, une vraie présence bienveillante, et qui va un jour refuser sa main, non pas qu'il y a une demande en mariage, mais simplement, Pig, c'est un garçon comme les autres, même dans sa différence, donc c'est un garçon qui a du désir pour elle, et il lui prend la main, et enfin il essaie. Et elle lui dit, ben non, c'est pas à toi que je pense comme ça. Et ça l'enferme complètement. C'était le moyen aussi de stigmatiser, enfin, un petit peu de radicaliser Pig dans son sa volonté. Ça, je sais pas si c'est une volonté. Il s'enferme complètement à partir de là.
Alors c'était pas une volonté, c'est-à-dire que le personnage, je ne l'ai pas créé pour ça. Ben, c'est un roman dans lequel l'amitié, elle est impossible en fait, parce que d'une part, il y a effectivement Léa dont il tombe amoureux, et puis d'autre part, il y a Serge qui tombe amoureux de lui. Et dans les deux cas, c'est un personnage qui n'a pas d'issue. Mais alors là encore, c'est venu au fil de l'écriture, c'est pas... J'ai pas
C'était pas
construit les personnages
prémédité.
pour, c'était... Ben, je savais qu'il était enfermé, je savais qu'il n'avait pas d'issue, mais en fait, c'est venu au fur et à mesure, la manière dont la relation avec Léa évolue, la manière dont la relation avec Serge évolue. C'est effectivement l'amitié est très importante, mais dans la peau d'un autre, elle est impossible. Justement, il ne peut pas se rattacher à ça. Dans Indomptable, oui. Dans Indomptable, c'est un peu la clé, l'amitié, effectivement.
Ah oui, c'est jusqu'au bout. Alors là,
Oui, c'est
on ne
jusqu'au
dira
bout,
pas
oui.
quelles sont les scènes
Oui.
qui sont très très marquantes de la fin. Donc dans la deuxième partie d'Indomptable, quand même, il faut en parler. Il y a là ce choix qui est fait de l'immigration. Il faut partir, il faut tenter sa chance vers l'Europe, vers un autre monde.
C'est pas un choix. Enfin,
enfin oui, c'est un non-choix, c'est ce qu'on
c'est
disait
un
tout à
non-choix.
l'heure.
Voilà, c'est un non-choix. C'est qu'à un moment donné, la situation est telle que
Il faut le faire.
il faut le faire. En fait, le choix n'existe pas vraiment. C'est une obligation. Il n'y a pas de possibilité de rester là, en tout cas quand on a 20 ans. Ben, dans la réalité, si on se promène à Douala, ou à Yaoundé, au Cameroun, les jeunes de 20 ans, ils sont désœuvrés, ils sont dans la rue, ils n'ont rien à faire. Ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de ressources pour une écrasante majorité d'entre eux, et ils veulent vivre, ils veulent s'en sortir, ils veulent simplement vivre. Et pour certains d'entre eux, il n'y a pas vraiment de choix. À un moment donné, dans une situation où on n'a pas d'ouverture et pas d'espoir, on essaie d'en trouver ailleurs.
Bon, est-ce que, en commençant le roman, vous aviez déjà l'idée de ce prologue où on sait que Jean-Jules, il va s'en sortir puisqu'il est devenu papa. Et on n'a pas parlé d'Olivia encore d'ailleurs, il faut qu'on y vienne, quand même, parce qu'elle est pour quelque chose dans l'histoire. Mais est-ce que c'était une volonté de dire, on va dépasser des tempêtes et il va se passer des choses graves, mais la vie est au bout puisque le résultat est là? Est-ce que le prologue existait au départ ou est-ce qu'il est venu après?
Je me souviens plus. Je crois qu'il est venu après. En tout cas, sous sa forme actuelle, il est venu tout à fait à la fin parce que je l'ai réécrit. Mais sous la première forme, est-ce que j'ai commencé par le prologue? Non, j'ai commencé par le reste du texte. Le prologue, il est venu à la fin. J'ai commencé par Jean-Jules sur le marché qui bondit, qui passe sous les étals, qui chope des bonbons, qui fait s'envoler les oiseaux dans les paniers, qui court vers sa grand-mère et vers la femme au piment. C'est par là que j'ai commencé.
C'est vraiment un roman de soleil, en tout cas dans sa première partie, un soleil radieux. Ça respire la joie de vivre. Et personnellement, enfin, mon avis n'intéresse personne en l'occurrence, mais personnellement, je trouve que ce prologue est vraiment utile parce qu'on peut avancer dans l'histoire en se disant ça va, on va y arriver, quoi. C'est quand même un moteur qui désespère pas son lecteur, enfin qui le terrorise pas tant que ça finalement. Alors que pour tout le monde, ça sera pas la même issue, mais ça, on dira pas. Donc l'autre grand personnage, à part les deux copains là inséparables. L'autre personnage, c'est Olivia. Donc elle, c'est la petite Française. Elle est en France, elle est à des centaines de kilomètres du Cameroun. Et on sait que ces deux-là donc, vont se rencontrer, puisqu'ils sont au départ. On sait que ça va être la future maman. Et elle, c'est une jeune fille qui n'est pas du tout dans la vie, ou alors qu'il est d'une façon extrêmement douloureuse. Et c'est le choix du journal intime que vous avez fait pour elle. Pourquoi ce n'est pas le choix du narrateur
Je sais pas
extérieur
du tout. Je ne sais pas. Je me suis posé la question et à un moment donné je me suis dit mais non, elle c'est la première personne. Ce que je sais c'est que je pourrais très facilement écrire 1000 pages à la première personne sur Olivia, ce qui est louche. Olivia elle a la rage, depuis toute petite. Et en fait, c'est Jean-Jules qui va calmer sa rage, mais elle est en fureur contre tout, au point de se scarifier, au point de se faire du mal, au point de quand elle est enfant. Et effectivement, la première personne. Alors, pour tout dire, la première personne, j'ai écrit avant, parce que j'ai réécrit l'enfance et l'adolescence. Et la première personne, elle s'est imposée quand j'ai voulu écrire la dernière partie du roman, le moment où ils se rencontrent. C'est-à-dire que pour moi, c'était le regard d'Olivia qui s'imposait à ce moment-là. Peut-être parce que Jean-Jules, il y a quelque chose qui revient aussi dans les deux romans, c'est le mutisme, l'impossibilité de parler. Dans la peau d'un autre, en fait, Pigment ne dit rien pendant toute la prise d'otage. Il dit pas un mot de mémoire, à tel point qu'une la petite fille qui arrive à communiquer avec lui le fait par des dessins. Et à un moment donné de sa vie, Jean-Jules ne peut plus parler non plus. Et c'est Olivia qui va le ramener au langage et le ramener à la vie en fait. Et la première personne s'est imposée d'elle-même.
On va dire comme Flaubert, Olivia, c'est vous adolescent. C'est votre Madame Bovary à vous.
Je ne me suis jamais scarifié.
Je ne sais pas d'où elle vient cette révolte. Est-ce que les personnages, ils ont de la révolte en eux, tous?
Oui.
Ou est-ce que c'est l'expression de la jeunesse?
Non, je pense que... Oui, c'est vrai que la rage, je l'ai souvent. Hein. Donc, j'ai poussé le curseur. et c'est Olivia qui est arrivée. Oui, c'est quelqu'un qui pousse, oui, qui m'a permis de pousser au bout certaines limites, quoi, d'aller au-delà de certaines limites, puisqu'elle se met en danger. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a des valeurs très fortes, qui est pas du tout quelqu'un qui est. Moi, je trouve pas qu'elle soit à côté de la vie. Elle a des valeurs très fortes, mais elle ne fait aucune concession, avec rien ni avec personne. Et donc elle se met en danger, elle a une sorte de pulsion presque d'autodestruction parce qu'elle refuse les concessions, elle refuse la vie, les compromis. Et au fond, c'est Jean-Jules qui va donner un sens à sa vie, en fait, qu'elle cherche pendant son enfance et son adolescence et qu'elle n'a pas. Même si dans la musique, elle aussi, elle arrive à trouver un exutoire, quelque chose pour... puisque c'est une pinquette, Olivia.
Une quête déchaînée. Le point commun aussi, donc le repli sur soi, le mutisme, effectivement, d'un moment à l'autre, et le goût des mots, qui est très important. Donc, dans les pages entre les chapitres de La peau d'un autre, il y a les textes de Pigment, qui sont des poèmes très très forts, très habités, donc qui disent ce qu'ils ne formulent pas, justement. Ses peurs, ses craintes, ses envies, ses colères, son désarroi qui disent tout ça. Et elle, Olivia, elle va chanter des mots qui ne sont pas d'elle, qui sont d'un ami qu'elle appelle Pneumo, qui est un petit obèse sympathique et un peu ostracisé lui aussi, son ange gardien également. Donc les mots, évidemment, bon, vous êtes prof de français, écrivain. J'imagine qu'ils sont importants pour vous, mais vous pensez que pour les adolescents, c'est une manière d'exprimer justement sa rage, de la contrôler, de la canaliser, d'en faire quelque chose?
Oh oui, enfin en tout cas en tant que mode d'expression, je suis persuadé que dans la majorité des classes que j'ai en face de moi, ils écrivent des poèmes, des chansons, ils les montrent pas forcément, mais je pense qu'il y a en tout cas une partie d'entre eux et peut-être la majorité d'entre eux qui écrit.
Même ceux qui disent qu'ils n'aiment pas lire, peut-être.
Oui, bien sûr. Oui. Même s'ils le cachent soigneusement, éventuellement à tout le monde, mais je pense qu'à l'adolescence, c'est particulièrement important de pouvoir trouver ces mots et qu'on a souvent du mal à les trouver face aux autres. C'est la fameuse image de Dolto, hein, le homard sans carapace, et je pense qu'on a du mal à. Enfin, souvent, on peut avoir du mal à parler, à s'exprimer, à être en relation avec les autres, et du coup, devant une feuille blanche ou devant un écran d'ordinateur, plutôt maintenant d'ailleurs, on n'a pas ce problème-là. C'est aussi. Oui, c'est aussi la situation de Pigment, c'est-à-dire qu'il écrit des textes parce que là, il n'y a personne pour lui dire qu'il n'a pas le droit de le faire. Et donc, il peut exprimer tout ce qu'il ne peut pas dire par ailleurs. Oui.
Vous voudriez nous faire une lecture? Je n'avais pas préparé avant,
Je
mais
peux.
je voulais choisir.
Ah, c'est moi qui choisis en plus.
Ouais.
Ah, je sais pas. Hein. Alors, j'ai rencontré deux classes, parce que La peau d'un autre était dans un prix lycéen, et ils avaient choisi ce poème-là, en fait, Papier froissé. Et ils m'avaient dit que ça leur parlait. Donc c'est un texte que Pigment écrit donc pour le groupe de rock de son ami Serge, qui est guitariste. Et donc Pigment écrit des textes. En fait, au départ, ce sont des poèmes, et Serge s'en empare pour en faire des paroles. Donc je vais lire ce texte-là. Oui, c'est bien,
Oui,
ça marche.
parfait.
Voilà. Donc Papier froissé. Dépliez-moi, je suis froissé. Papier glacé, tout déchiré. Dépliez-moi, pas à moitié, bien s'appliquer, pas me blesser. L'encre est salie, ma peau usée, toute plissée, tout exposée. Vos yeux me brûlent et consumés, ma vie s'annule, carbonisée. Fibres à nu, des regards crus, la honte bue, pas de salut. Repliez-moi, pas à moitié, le sang séché de l'encrier. Repliez-moi à fleur de peau, jusque à l'os. Je tremble trop. Papier mâché et recraché, c'est au néant de me cacher. Voilà, donc ça c'est un poème. Alors peut-être, je vais peut-être lire alors le début d'Indomptable,
Oui, avec plaisir.
par opposition. Et donc, le, alors, pas le prologue. Pourquoi pas le prologue? Le prologue ou le début? Vous préférez quoi?
Le début, oui.
Le début. Jean-Jules, 5 ans et demi. Jean-Jules, va me chercher le piment. 8h30. La phrase rituelle a claqué dans l'air du matin. Et comme d'habitude, Jean-Jules ne sait pas trop comment déchiffrer l'étincelle au fond des yeux de la grand-mère, pas plus que son sourire en coin. Dans le doute, il vaut mieux obéir au ton péremptoire de cette voix sèche, grave, rocailleuse, devant laquelle tous les hommes du village filent doux. Même à 5 ans, ça se voit, ce genre de choses. Et même à 5 ans, Jean-Jules a intégré dans son bagage mental le mantra numéro 1, ne jamais contrarier la grand-mère. Ses fesses s'en souviennent pour lui. Alors le garçon se met en route, à toute allure, employant comme d'habitude son mètre de hauteur, tout pile, à son avantage. Ça tracasse sa famille, cette petite taille, alors que son frère et sa sœur aînée sont bien partis pour achever leur course verticale à 1m90 à l'âge adulte. Pour lui, c'est déjà raté, comme dit parfois son père d'un air inquiet. Jean-Jules s'en fout assez radicalement. La proximité du sol est un atout assez considérable, notamment quand Ma-Hélène veut du piment. Il fonce sous la rangée de tables où depuis quelques minutes s'étale la chair de zébu, évitant la cohue du marché, les bousculades des vendeurs et des acheteuses. Il vole au milieu du vrombissement d'une nuée de mouches, et ça le fait toujours rire d'être accompagné de ce bruit de moteur qu'elles font à ses oreilles, tout près. Il rêve qu'il est le taxi de l'oncle Linus, tout jaune, tout cabossé. Oui, rouler sa bosse, comme un rêve. Il surgit du bout de la rangée en étendant les bras en l'air et en montrant ses dents au soleil ascendant. « Je vais plus vite que toi, soleil. Regarde-moi. » Il zigzague fulgurant entre les vendeuses de beignets, en chipant au passage dans la grande bassine de Ma Séraphine, qu'il a vu venir de loin. Froncement de sourcils surjoué. « Dis donc, Jean-Jules, si je t'attrape seulement, tu vas sentir ma main. » Il continue à foncer, sachant déjà que lors de sa prochaine visite à la mer, Séraphine lui lancera dans un éclat de rire, en l'accusant du doigt. « Eléa, ton fils, s'il me vole au marché, ça ne peut pas continuer. » Et ensuite, les mamans parleront d'autre chose, des trucs d'adultes sans intérêt. Il frôle le magasin de planches et de tôles du père Alphonse, fait voler les plumes des poules qui s'écartent caquetant sur son passage et secoue, en s'envolant maladroitement, les paniers qui ornent l'entrée du magasin. Le père Alphonse sort sur le seuil, sa pipe à la main, montre le poing, mais Jean-Jules n'a pas besoin de se retourner pour savoir que l'étincelle de la grand-mère est aussi au fond des yeux du vieil homme qui le crée dessus à plein poumon. Sauf que ses poumons, avec l'âge, ne lui permettent pas de dominer la cohue ambiance. La cohue ambiante. Alors il continue sa course, Jean-Jules, enjambe les paniers de fruits et de légumes, braille un sonore « Bonjour, Ma-Aline !» en filant devant les corbeilles de sa tante, et Lynn glousse à sa voisine « Vraiment le garçon-ci, je t'assure, tu ne peux même pas l'arrêter. » Jean-Jules, 7 ans. Ainsi va le rituel chaque semaine du piment de Ma-Hélène, le bonheur de l'enfance toujours recommencé, Jean-Jules lancé dans sa course, défiant un père Alphonse de plus en plus inaudible, réveillant le soleil de moins en moins inaccessible, croisant encore et encore le gloussement de Ma-Aline, pour arriver enfin, tout essoufflé, devant la dame au piment. Elle, à chaque fois, dans un sourire, « Jules, c'est ton heure. » Un sourire. Son sourire. C'est sa récompense à Jean-Jules. Tout s'arrête au-dedans de lui en même temps que ses jambes, suspendues au mouvement des lèvres de la dame au piment. Régulièrement, Jean-Jules lui fait une déclaration aussi enflammée qu'essoufflée, et Madame Atsembe déploie sa gorge, justement, dans un rire lumineux qui fait chavirer l'amoureux transi. « Jean-Jules, je suis déjà marié. Mais quand je serai un homme, votre mari sera tout vieux, tout racorni. Mais moi aussi, dis donc. Non, vous vous serez toujours belle comme maintenant, et ça sera moi votre mari, obligé. »
Mais c'est, on le sent à la lecture, en plus vous lisez très bien avec les petits accents. Juste ce qu'il faut. C'est un texte complètement jubilatoire, plein de lumière, comme on le disait tout à l'heure. Et c'est un soleil qui va se voiler petit à petit. Je voulais revenir à l'enfance avec quand même des citations qui ne sont pas choisies au hasard. Une citation d'Incendie de Majdi Mouawad, qui est très belle. « L'enfance est un couteau planté dans la gorge. On ne la retire pas facilement. » Donc j'imagine le choix, c'est peut-être inconscient, mais quand même, ils ont cette enfance enracinée en eux, tous vos personnages, ils partent de là. Et vous citez dans la bibliothèque des Blancs, où il a accès, Pig, il lit Hugo et Dickens, et ça m'a fait penser au début de David Copperfield, deviendrai-je le héros de ma propre vie. Et je trouve qu'il y a vraiment ça dans ces deux romans, c'est des trajectoires, des destins, enfin c'est quoi de plus romanesque que l'exploration d'un destin quand on part de l'enfance. Dans vos lectures, c'est présent aussi ce goût de l'enfance dans vos choix de lecture?
Comme lecteur?
Ouais, comme lecteur.
Non. Non, ça c'est plus. Oui, c'est plus ça renvoie plus à peut-être du vécu. Honnêtement, non, je ne suis pas spécialement attiré par les récits d'enfance. Je cherche, non, pas spécialement. Mais en revanche, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est effectivement les trajectoires de vie.
Oui.
Voilà, comme vous le dites, et les histoires croisées aussi. Bon, mon autre passion, c'est le cinéma, et c'est vrai que le cinéma d'Inaritu, par exemple, c'est un cinéma qui me fascinerait assez dans 21 grammes, cette façon de croiser les points de vue, les trajectoires, et comment à un moment donné, on se rencontre, éventuellement, alors qu'on est à des milliers de kilomètres l'un de l'autre.
Alors, il y a une pointe de magie, d'ailleurs, presque, puisque Olivia et Jean-Jules vont se rencontrer. Avant de se rencontrer, ils rêvent l'un de l'autre, avant de se voir. Donc c'est une espèce de presque réalisme magique.
Oui, de pressentiment.
Oui.
Ça, c'est le côté un peu fantastique. Il y en a indomptable.
Oui.
C'est aussi en rapport avec le fait que... En Afrique, il y a des choses comme ça un peu magiques qui se passent. Et oui, Jean-Jules, alors en plus, Jean-Jules, son grand-père est sorcier.
Oui.
Donc il a quelque chose quand même de... il a un rapport au monde qui est quand même particulier. Et il rêve effectivement de... Alors il ne sait pas qui c'est, mais il rêve d'une fille avec des cheveux roux qui est Olivia. Et il rêve un petit peu ce qu'il va vivre à Lampedusa, en fait.
Oui, aussi des images angoissantes de bateaux, de mer déchaînées. Il y a aussi cette jolie citation, alors là c'est dans la peau d'un autre, où il Pigment se remémore un moment heureux passé avec son père, en escaladant une montagne, en escaladant une montagne. De toute l'existence, il n'est de vrai que l'enfant, la lumière et le chemin. Ça... résume un petit peu finalement ces trajectoires-là.
Oui, c'est vrai que ça vaut pour Indomptable aussi. C'est tout à fait à la fin de La peau d'un autre. C'est un moment un petit peu lumineux, heureusement, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans La peau d'un autre. Oui, c'est un moment de bonheur avec son grand-père qui se remémore un peu. Oui, c'est une façon de dire ben voilà, c'est. Tout est accompli, c'est un petit peu quelque chose comme ça. Et de se dire que finalement, il n'a pas de regrets. C'est une version apaisée de la... peut-être de la fin de l'étranger, de Camus. Où Meursault attend les cris de haine. Lui, il n'attend pas les cris de haine. Il se souvient d'un moment apaisé de son enfance. Voilà, sachant qu'il comprend que... Enfin, il sait que, de toute façon, il est venu là... pas pour en sortir.
Oui, que l'issue sera fatale pour lui. Et ce qui est extraordinaire dans ce roman, c'est l'empathie qu'on ressent pour le personnage à la fin, alors que, comme on le disait au début c'est un monstre, hein, c'est le vilain preneur d'otages qui vient terroriser des petits-enfants innocents. Et ça s'inverse complètement, c'est le tueur qu'il a dans sa ligne de mire qu'on en est à détester à la fin, hein, qu'une machine à tuer, froide, impatient d'accomplir son œuvre.
Oui, ça
c'est complètement troublant.
Oui, ouais. Ça m'intéressait beaucoup, ça, d'amener le lecteur à retourner son point de vue. C'est aussi en rapport avec les préjugés, c'est un petit peu aussi dans Indomptable d'une autre manière, la façon dont on simplifie quand on commence à porter des jugements, en particulier sur les gens, sur les situations, on a toujours tendance à simplifier et du coup à... penser en fonction de ce qui est le plus facile. Et Pigment, c'est un monstre tout désigné. Il est apparemment armé. Il est dans une classe avec des enfants de maternelle. Il a une ceinture d'explosifs. Donc, a priori, c'est le monstre, c'est le personnage qu'on a envie de détester et dont on a envie qu'il soit abattu. Alors qu'il est au fond tout le contraire de ça. Et ça m'intéressait de questionner ce jeu entre l'apparence et la réalité. Le fait que... Aujourd'hui, où la vie va très vite, l'information va très vite, on a tendance à voir l'écume des choses, à s'y arrêter, à porter des jugements sur l'écume, sans comprendre le flot.
Vous fustigez aussi dans les deux romans la bonne conscience des Occidentaux et une certaine hypocrisie. Je pense à La peau d'un autre, page 123, que je retrouve. Comment peut-on s'émouvoir aux larmes d'un accident qui fait 10 morts quand 6 millions de représentants de l'espèce ont disparu il y a seulement quelques décennies, ou près d'un million sous les machettes, à quelques encablures de temps, ou quelques milliers de famines de l'autre côté de la mer, au moment même où on parle. Donc à ce moment-là, Pikman, il est au collège, il est fasciné par toutes les horreurs de l'histoire, finalement, par les génocides. Et en fait, il y a les génocides de l'histoire, et puis il y a les génocides en train de se faire, peut-être pas sous nos fenêtres, mais pas loin, à l'heure où on va n'importe où, en 2-3 heures d'avion. Donc c'est une manière de dire ça aussi.
Alors,
de
oui,
faire réfléchir à ça.
Pigment, à ce moment-là, il essaye de comprendre pourquoi il est à ce point-là l'objet de risées, de moqueries, de méchanceté, de mauvais traitements. Et donc, effectivement, à un moment donné, il se plonge dans les livres et il découvre effectivement ça. Alors, oui, c'est vrai que dans les deux romans, à un moment donné, il est question du regard occidental, c'est vrai, qui est, on va dire, myope. Voilà, on est très sensible aux accidents de la route, mais c'est aussi une question peut-être médiatique. Hein. On est très sensible à ce qui se passe chez nous, en France, et pas forcément autant à ce qui peut se passer ailleurs, y compris dans justement, c'est le sujet d'Indomptable, les vagues de migrants... dont on parle plus maintenant, ils sont plus sous les projecteurs, donc on découvre qu'il y a des milliers de gens qui se noient chaque année en essayant de traverser la Méditerranée. Ça arrive certainement depuis 15 ou 20 ans. On s'en est foutu royalement pendant très longtemps. Donc c'est effectivement un sujet de questionnement, mais c'est un sujet de questionnement pour moi aussi.
Il y a une façon aussi peut-être de faire réfléchir les jeunes d'aujourd'hui
Alors,
leur façon de lire l'actualité aussi, de réagir.
Oui, alors, sauf que La peau, je ne l'ai pas du tout écrit en pensant que ça allait être un public ado, en fait. Je l'ai écrit, voilà, et en fait, c'est Thibaut Bérard d'Exprime de Sarbacane qui a voulu publier le manuscrit, mais moi, quand je l'ai écrit, je n'ai pas du tout pensé à un roman pour ado, j'ai pensé à un roman, point. Je ne me suis pas posé la question d'une cible, entre guillemets, et je me la suis... pas vraiment posé non plus pour Indomptable, même si là je savais que ça serait Exprime. Donc j'ai pas vraiment cherché à parler aux adolescents. J'ai plus pensé à, dans ces moments-là, un échange avec le lecteur, voilà, quel qu'il soit.
Parce que c'est aussi bien de pas penser aux adolescents en particulier, je pense. Comment s'est faite la rencontre d'ailleurs avec Thibaut Bérard
Par la poste. j'ai envoyé le manuscrit à pas mal d'éditeurs généralistes pendant 3-4 mois. Il ne se passait rien. Et c'est en fait, au bout de 4 mois, je me suis dit, tiens, il faudrait peut-être que j'essaye des éditeurs jeunesse. Parce qu'il y avait une partie qui se passait au collège, mais c'était vraiment intuitivement.
Et, sans avoir lu, pardon, des livres de la collection avant ?
Pas du tout.
Ah oui.
J'ai découvert la collection Exprime après, du coup. Et même j'ai découvert la littérature pour ados qui existe depuis une dizaine d'années après. Je connaissais absolument pas cette littérature là et donc je l'ai envoyé c'était en février 2012 je crois à Thibaut et il m'a répondu 3 semaines après, il m'a appelé très enthousiaste et voilà, la rencontre s'est faite comme ça. Et j'ai eu de la chance parce que c'est un éditeur et c'est une maison d'édition qui travaille beaucoup sur la durée, qui travaille sur la confiance, qui a une façon de travailler très particulière. On réécrit beaucoup. Il envoie des propositions, il fait réagir les auteurs. À ma connaissance, il prend pas de manuscrit tout fait. Et lui, il veut retravailler et donc on retravaille. Et c'est très intéressant et c'est très formateur.
Oui, j'ai entendu parler de manuscrits avec des annotations dans tous les sens, des paragraphes enquillés, surlignés, annotés.
Voilà, avec des couleurs différentes, ce qui fait que je l'appelle le stabilator. Parce qu'il met des couleurs. Alors le vert, c'est quand il trouve ça pas terrible. Le jaune, c'est quand il trouve... Non, le jaune, c'est quand il trouve ça pas terrible. Le vert, c'est il fait une proposition, mais pour qu'on réagisse. Le rouge, c'est pour qu'on supprime. Et donc, quand le lettrage est en rouge, si on veut vraiment le garder, pas de problème. Quand vraiment il surligne en rouge, c'est qu'il trouve ça vraiment pas bien. Et puis, il y a d'autres moments, il va dire, mais là, il faut que tu développes ça. Enfin bon, c'est vraiment quelqu'un qui va beaucoup intervenir sur l'écriture. Mais jamais... autrement que dans un respect total de l'auteur. C'est toujours nous qui avons le dernier mot, c'est toujours nous qui disons oui ou non. Et pour Indomptable, qui a beaucoup varié, dans la première version que je lui avais envoyée, il m'a dit, bon, ça va pas, il faudrait... en gros, il a fallu couper 80 pages, mais il m'a dit, si tu veux qu'on le fasse comme ça, on le fera comme ça. Mais ça n'ira pas. Donc il y a toujours c'est toujours l'auteur qui décide au bout du compte.
Mais une vraie collaboration, ce qui explique que tous les auteurs remercient Thibaut en général en dédicace. Oui.
Et qui s'en vont pas.
Et qui s'en vont pas, absolument. Mmh. C'est une vraie collaboration, une vraie fidélité. Le temps passe avec vous, Philippe Arnaud, très vite. Donc on aurait bien continué à évoquer tout ça. On vous attend pour un Pépix à la rentrée. Donc Pépix, c'est une collection pour les plus jeunes à partir de 9-10 ans. Mmh. Toujours dirigé par Thibaut Bérard, toujours chez Sarbacane, mais une collection où l'humour, là, est plutôt privilégié. Donc on découvrira sous un autre registre. Vous pouvez nous en dire deux mots, quand même, de ce Pépix?
Oui, début octobre, il sort. C'est La Sorcitresse. Donc c'est l'histoire d'un groupe de jeunes gens. Donc c'est aussi à la première personne. Le personnage principal, c'est Balthazar. Il est entouré de plusieurs amis et d'une amie. Il arrive dans une pension qui s'appelle Deuxième Chance, mais qu'eux, ils ont rebaptisé Double Peine. Donc, c'est une pension dans laquelle on met les enfants qui semblent des cas désespérés, qui fait sa publicité sur l'idée qu'on va les remettre dans le droit chemin. Et en fait, il découvre dans cette pension une maîtresse qui est totalement féerique. Et donc tous les élèves tombent instantanément amoureux, mais cette maîtresse est remplacée la deuxième quinzaine de chaque mois, elle est remplacée par une maîtresse épouvantable, donc la sorcitresse, qui est en fait une sorcière, enfin vraiment totalement effrayante. Et donc ils se mettent en tête de comprendre pourquoi la maîtresse qu'ils aiment disparaît en arrêt maladie pendant 15 jours, et ils se mettent en tête de l'aider. Et c'est l'histoire de cette aventure un peu féerique qu'ils vont vivre.
Donc un tout autre registre, et donc un autre exprime apparaître, mais là...
Oula, alors là, il n'est pas fini. Donc il paraîtra en 2016. Voilà, mais j'en dis pas plus parce que là, il n'est pas fini.
C'est en cours.
Oui, il est en cours.
Une dernière question par curiosité très personnelle, puisque Al Jarreau donc est très très présent dans Indomptable. Est-ce que j'ai presque l'impression que l'amitié des deux garçons, elle illustre la chanson My Old Friend?
Alors, c'est le contraire dans le
c'est
roman.
C'est le contraire.
Oui, c'est que dans le roman, oui, dans je le cherchais roman, à un moment donné. My Old Friend est venu à un moment très dur du roman entre eux, là où il se passe quelque chose de très dur entre eux. Et j'ai cherché effectivement une chanson d'Al Jarreau qui puisse les aider à ce moment-là. Et je suis tombé sur My Old Friend. Et sans d'ailleurs, je crois que c'était avant que Al Jarreau fasse un album en hommage à son ami. C'est George Duke. C'est un hommage à Duke qui s'appelle My Old Friend, où il reprend cette chanson-là.
Et alors pourquoi cette passion des garçons pour Al Jarreau en particulier?
J'ai cherché alors déjà un chanteur que j'aime beaucoup moi, qui soit noir, qui soit une musique vocale, alors donc il est américain, mais une musique vocale noire. Mmh. Je trouvais ça très important dans ce roman-là. Pourquoi Al-Jarreau spécialement? Parce que il y a beaucoup de ses textes que j'aime beaucoup, en plus du personnage lui-même, que je trouve absolument magique. Et je trouve qu'Al-Jarreau est quelqu'un qui est solaire, qui est lumineux, qui est comme Jean-Jules, en fait. Même maintenant, où il était à ce nom il n'y a pas longtemps, même diminué par la maladie, c'est quelqu'un qui rit, qui sourit, qui pour moi incarne une forme de joie de vivre permanente. Voilà, donc il s'est imposé naturellement.
On va finir sur ça, sur la joie de vivre permanente, c'est quand même pas mal.
Oui, c'est bien.
Donc, deux romans parus chez Exprime, La peau d'un autre et Indomptable. Merci Philippe Arnaud d'avoir répondu à notre invitation pour cette première de Lire en short. Vous avez courageusement ouvert le bal.
Merci.